Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors ce soir, avant de rejoindre notre invité, Jean-Luc Pouliquen, je voudrais faire deux annonces extrêmement rapides. La première concerne une publication de Bartholomé Bénassar qui s'appelle Pérégrination ibérique, esquisse d'ego histoire. Publié à la maison d'édition Casa de Velázquez, ça vient de Madrid, et ça constitue en définitive le numéro 11 des essais de la Casa de Velázquez. Alors, Bartholomé Bénassar, nous devions ici à Radio Occitanie faire une émission avec lui. J'avais demandé d'ailleurs, c'est un historien qui est une figure de l'histoire contemporaine, une figure également de l'histoire médiévale, puisque c'est un des spécialistes de l'Inquisition. En tout cas, c'est une grande figure de la littérature historique à Toulouse, qui a disparu il y a quelques mois. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire cette émission avec Bartholomé Bénassar, ce qui a été un de mes grands, grands regrets. D'avoir retardé cette émission. Je voulais faire une émission sur son livre sur Franco et je n'avais pas, j'avais lu, relu ce livre depuis longtemps, mais je n'avais pas encore maîtrisé un petit peu ce que on pouvait extraire de véritablement fondamental de ce règne. De Franco en Espagne et surtout je n'avais pas un petit peu calmé les passions avec lesquelles j'aurais abordé ce sujet. En tout cas, je veux signaler ce livre qui est évidemment sa dernière publication qui vient de paraître. Il a été imprimé en Espagne, bien sûr, par la Casa de Velázquez, mais on le trouve bien entendu en France. Hein, Pérégrination ibérique, c'est les esquisses d'Ego Histoire, Casa de Velázquez, et il y a là toute l'histoire, toute la biographie, l'autobiographie, mais comme le ferait un historien scientifique. On est là vraiment dans un essai qui est d'une originalité absolue, en tout cas qui est passionnant, mais qui parle aussi donc de sa vie personnelle et en particulier du drame qui a été le drame de Bartholomé Bénassar, hein, Bartholomé Bénassar qui a été président de l'université Toulouse-Le Mirail, et qui était mainteneur à l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse et qui avait un fils Jean qui était poète. Lequel fils Jean a mis fin à ses jours d'une façon très, très prématurée et qui a été vraiment d'une grande brutalité pour Bartholomé Bénassar. Et il parle de cela également dans ce livre. Un livre à lire absolument, en tout cas tous les passionnés d'histoire vont avoir à cœur de se le procurer et également. Nous ferons une émission plus approfondie sur Bartholomé Bénassar en l'associant à son fils Jean Bénassar et en lisant les poèmes de Jean Bénassar. Voilà, donc je répète, Bartholomé Bénassar, Pérégrination ibérique, esquisse d'Ego Histoire, aux éditions Casa de Velázquez. Ça vous coûtera 15 euros. Et puis, très rapidement également, puisque je pense que nous ferons une émission avec Gérard Beauchollier, qui fait paraître à Arfuyen depuis toujours Le Chant, donc un livre de poésie, le dernier livre de poésie de Gérard Beauchollier. Je vais vous lire simplement un extrait de ce livre. L'amour jamais ne renonce à m'emporter dans ta joie, il me guide vers ta porte, plus patient de soir en soir. Maintenant, le crépuscule fait frissonner les collines. J'ai grand besoin de ce feu que le berger nous allume. Voilà, Gérard Beauchollier, depuis toujours Le Chant, aux éditions Orphelin. Je voulais le signaler avant d'en reparler beaucoup plus complètement. Un livre qui vous coûtera 13 euros. Maintenant, rendez-vous avec notre invité, Jean-Luc Pouliquen. Jean-Luc Pouliquen, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous sur cette émission Les Poètes de Radio Occitanie. Alors, Jean-Luc Pouliquen, vous êtes bien sûr poète et vous nous parlerez de vos publications, en particulier les dernières publications de poésie. Mais au-delà de ça, vous êtes critique. Également, vous avez un blog dont vous allez nous parler, un blog qui existe depuis quelques années, si je comprends bien.
2010, oui.
Voilà. Et on vous retrouve bien sûr dans les revues de poésie et les revues tout court, hein, en particulier les deux dernières, Vocatif. Et puis, cette conversation très attentique autour de l'art et de la poésie, également, dont nous allons parler. Alors, si vous voulez bien, je crois que vous êtes, faites partie de ces poètes qui peuvent prétendre être un peu les descendants, en tout cas dans la continuité de ce qu'on a appelé l'école de Rochefort.
Oui, tout à fait, oui. Ben, j'ai eu la chance de rencontrer Jean Bouyer en 1983. Il s'était retiré près de Sanary, à Sifour-les-Plages, et la Revue Sud avait organisé, à l'époque, c'était la fête de la poésie qui précédait le printemps des poètes, et c'était la première fête de la poésie, et différents événements avaient été organisés. Et donc, à Marseille, au musée Grobet-Labadie, c'est la première fois que j'ai rencontré Jean-Marc Tixier, Jacques Lovicki, hélas disparu
Oui,
aujourd'hui, Yves
oui,
Broussard aussi,
oui. Eh oui.
Pierre Caminade. Et c'était l'occasion d'un numéro spécial sur Jean Rousselot. Et Jean Rousselot n'était pas là, et c'est Pierre Caminade qui l'avait présenté avec Jean Bouyer. Et ça a été le début d'une amitié. Je suis allé bien des fois ensuite chez Jean Bouyer. Et là, ça a été pour moi quelque chose d'une expérience assez fantastique, parce que durant mes études à Paris, finalement, je n'avais pas, malgré mes recherches d'amitié intellectuelle, je n'avais pas fait de rencontres déterminantes. Les gens étaient un peu fermés sur eux-mêmes ou dans leur petit cercle. Et là, tout d'un coup, il y avait un acteur de l'histoire de la poésie qui ouvrait grand son bureau, ses archives, sa bibliothèque et son amitié. Et il y a eu une transmission assez exceptionnelle. Ce qui était assez extraordinaire, c'est que on parlait par exemple de Mac Jacob. Jean Bouyer dit, ben voilà les lettres. Alors il avait bien rangé tous les courriers qu'il avait reçus, il montrait des lettres de Mac Jacob. On parlait de Charles Trenet, il montrait les lettres qu'il avait de Charles Trenet. Enfin, c'était tout un pan d'histoire vivante qui était dévoilé comme ça dans un échange très, très amical. Le tutoiement était arrivé tout de suite. Enfin, il y avait, malgré la différence de génération, une proximité, une amitié, une spontanéité remarquable.
Alors on peut rappeler que Jean Bouyer était pharmacien de son état,
Voilà.
qu'à la retraite, il s'est retiré effectivement dans cette belle région que vous avez la chance d'habiter. Et il est surtout l'auteur de l'anthologie de l'école de Rochefort,
C'est ça. Alors
qui
il
a
a
été un
vécu
travail considérable.
cette période exceptionnelle de finalement la reconnaissance de l'école de Rochefort, puisque l'école de Rochefort a été créée en 41, je crois. Et au début des années 80, il y a eu un engouement pour l'école de Rochefort, à la fois universitaire, puisque l'université d'Angers a organisé une succession de colloques, à la fois collectifs sur le mouvement lui-même, ensuite en individualisant les rencontres autour en célébrant Manol, Bérimont, Rousselot, Bouyer, etc. Et puis il y a eu les éditions Segers qui ont commandé à Jean Bouyer cette anthologie qui récapitulait tout le travail accompli et l'action accomplie en matière poétique.
Voilà, je me souviens de l'avoir eu au téléphone pendant cette période. Il était très enthousiaste de voir enfin cette publication surgir comme ça dans l'histoire de la poésie française, parce que c'est quand même un mouvement important de la poésie française. Peut-être vous pourriez nous en dire quelques mots de ça, puisque vous en parlez déjà, je crois, dans Le Poète dans la Cité, avec votre entretien, vous parlez de l'école de Rochefort, vous expliquez que ça se situe après le surréalisme, mais que ce n'est pas véritablement contre le surréalisme, mais c'est pour humaniser un petit peu ce mouvement.
Voilà, oui. Alors il y a le très beau qualificatif de Cadou,
Oui.
qui est le surromantisme, en fait, qui
Voilà.
l'a préféré au surréalisme. Donc il y a eu toute cette période surréaliste. Et puis, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un certain dessèchement du surréalisme, une certaine intellectualisation. Et les poètes de Rochefort, alors les poètes, il faut citer Jean Bouyer, René-Guy Cadou, Jean Follain, Marcel Béalut, Luc Bérimont. Et Louis Guillaume, enfin toute la génération qui vient après le surréalisme est passée par l'école de Rochefort, de près ou de loin, avec un souci de réintroduire la dimension de nature, la dimension d'amitié, les feuillages du cœur, c'est je crois, un titre de Cadou, enfin, une espèce de réhumanisation, refraternisation de la poésie. Mais cette école de Rochefort n'est pas sortie d'elle-même. Il y a des filiations, notamment bon, les aînés, les figures tutélaires, c'est Max Jacob, c'est Reverdy, mais on s'aperçoit que Cadou a beaucoup travaillé sur Apollinaire. Il y a André Salmon, dont on va peut-être reparler, qui les a encouragés à leur début. Et j'ai découvert finalement que entre les amis de Salmon, qui étaient Max Jacob, Picasso, Apollinaire, et l'école de Rochefort, il y a des liens qui n'ont pas été assez mis en valeur, notamment l'introduction de la poésie, du quotidien dans la poésie, un sens de la fraternité, un sens de l'élan affectif. Enfin, tout ça avait déjà été dit, on le retrouve chez Apollinaire. Et puis, bon, quand on voit tout ce qu'a écrit Cadou dans son livre Le Miroir d'Orphée, enfin, tous ceux chez qui il est allé puiser et qu'il a essayé de continuer, il y a Francis Jammes aussi, c'est la figure finalement du poète qui reste loin de Paris, qui reste enraciné, mais qui a des connexions avec le monde parisien. Francis Jammes a connu Mallarmé, a été encouragé par Claudel, à fréquenter Gide. C'est une poésie de très haut niveau, mais qui ne veut pas céder aux démons de l'ambition, du parisianisme, qui veut rester elle-même et continuer à creuser son sillon là où elle est née.
Comme disait Cadou, pourquoi n'allez-vous pas à Paris, mais l'odeur des lys, l'odeur des
Voilà.
lys, hein? Oui. Alors, ce quotidien, Jean Follain, l'a un petit peu conceptualisé aussi par sa poésie,
Oui,
hein?
Jean Follain est bien le représentant de la poésie du quotidien. Mais il était très ami avec André Salmon. Et dans son journal de Jean Follain, qui avait été édité il y a quelques années là, par Claire Polan, Jean Follain raconte ses nombreuses visites à André Salmon. Et donc, en fait, il y a une continuité sur deux générations, quoi. Il y a la génération de Salmon et puis celle de Cadou. Et entre les deux, il y a des liens très forts. Seulement, ce que voulait Jean Bouyer, c'est affirmer sa génération, quoi. Ne pas éditer les aînés qui avaient eu déjà des occasions de se faire connaître, d'être publiés. Donc, avec l'école de Rochefort, c'est une génération qui s'impose. Et en fait, deux générations même, parce qu'il y a eu deux périodes de l'école de Rochefort. Il y a eu la période de la guerre. Puis à la Libération, les poètes se sont dispersés. Puis la mort de Cadou en 50 les a fait se retrouver. Et ils étaient pour la plupart sur Paris. Et là, il y a eu les rencontres de la Coupole. Alors, il ne s'agissait pas de parler de poésie, mais c'était plutôt entre poètes de parler du monde tel qu'il était, tel qu'il advenait. Et puis, il y a eu une nouvelle série. Et là, ben, les poètes les plus importants de la nouvelle génération ont été édités. Jacques Reda a été publié dans les cahiers de Rochefort, Marc Alain, Pierre Garnier. Enfin, ça a été aussi un grand moment de la poésie et qui a été après poursuivi par le manifeste Poésie pour vivre de Jean Breton. Et là, bon, les poètes comme Bigas en est des éditions de Jean Breton, et on peut trouver un fil continu comme ça avec tous ces poètes qui veulent rester ancrés dans ce monde et le dire avec les mots qui correspondent à l'époque.
Jean Breton le revendique d'ailleurs, hein, cette descendance.
Oui, oui.
Oui. Est-ce que les poètes que l'on lit dans les revues d'une façon générale vous semblent toujours appartenir à cette mouvance?
Je ne saurais pas dire, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, chacun a un parcours, c'est ce qu'on dit dans notre conversation transatlantique
Oui,
avec Bess,
oui.
Gersnesik. Il y a une espèce d'atomisation de la vie poétique. Il n'y a plus de regroupement, alors il peut y avoir des individus qui. Bon, je pense à Marie-Josée Christien en Bretagne, à Guy Alix, qui sont quand même dans une filiation. Guy Alix avait travaillé sur Follin. Il y a quand même des liens, je pense à Jean-Albert Guénégan, à Morlaix. Il y a toujours une poésie qui se veut enracinée, mais qui ne s'affirme peut-être pas collectivement, quoi.
Et ça, c'est un signe de notre époque. C'est dû à quoi? Non, à la technologie aussi, peut-être? Cette atomisation de la poésie?
Oui, allez. Bien dans un livre que je viens de faire paraître, Faire vivre la poésie,
Oui.
j'essaye de rendre compte de la vie poétique telle qu'elle est aujourd'hui par rapport à ce qui se passait ben, du temps d'Apollinaire, du temps de Jean Bouyer aussi. On se retrouvait dans les cafés, on se retrouvait autour de revues, il y avait une vie de groupe, mais finalement qui était un peu clandestine, quoi. Et un phénomène nouveau, enfin nouveau qui date d'une trentaine d'années, c'est l'intervention de la puissance publique dans la vie poétique. Alors, une intervention qui a une bonne intention, c'est d'aider les poètes. Alors, on donne des subventions, on crée des bourses, on crée des résidences, on crée des festivals à grand renfort d'argent public. Mais ça a modifié totalement le fonctionnement de la poésie, qui relevait autrefois de la société civile. C'était entre poètes qu'on s'organisait. Et là, il y a un opérateur public qui va finalement peut-être influencer la vie poétique et qui va peut-être satelliser des poètes autour de son action, ce qui fait que le poète va se déterminer par rapport à une médiathèque, par rapport à une bourse, par rapport à une résidence, ce qui va complètement modifier le contenu de sa poésie. Et puis, disons, l'autorité publique va introniser certains poètes, va en légitimer certains et pas d'autres, ce qui peut conduire vers une poésie officielle qui n'en a pas l'air, mais qui le devient finalement, alors qu'à l'époque, on était dans une certaine liberté. Et alors, à la fin du petit essai qui conclut Faire vivre la poésie, je pose ces questions, je vais vous lire l'extrait. Est-ce que je dis, on imagine mal Tristan Tzara et ses amis dadaïstes remettre en cause les fondements d'une société qui a conduit à la Première Guerre mondiale dans le cadre d'une résidence d'écrivain? Et puis je dis aussi, est-ce que on voit mal le poème Liberté de Paul Éluard, subventionné par le régime de Vichy? On voit mal la Beat Génération faire une demande d'année sabbatique, si vous voulez. Il y a toujours le cri du poète qui doit s'affirmer en dehors de tout cadre social. Donc, l'intervention publique a modifié complètement. Alors, j'essaye d'en montrer le bon côté aussi, hein. Mais il y a toujours un ultime moment du poète qui, dans sa solitude, doit dire ce qu'il ressent profondément en dehors de tout cadre culturel, si vous voulez, préétabli.
Alors, ce que vous voulez dire me semble terriblement important, certainement méconnu et du public. Hein. Je pense que les lecteurs ne se rendent pas compte de ça du tout. Et en 1983, quand Jacques Lang a décidé comme il y avait eu la fête de la musique avant, la poésie est arrivée après, l'année suivante. Et en 1983, il y avait donc cette fête de la
De la
poésie, hein,
poésie.
voilà, qui est devenue après le printemps des poètes. Et nous avions, en 1983, ici, à cette radio, nous avions reçu René Rougerie.
Ah oui.
René Rougerie venait de faire paraître dans ses éditions
Ah oui.
un livre qui s'appelait La fête des ânes.
C'est ça, voilà.
Voilà. Et alors, qui était complètement iconoclaste. Et qui disait, c'est une stupidité. Et ces subventions, etc., risquent de conduire à l'inverse de l'effet recherché, c'est-à-dire à faire une sélection et à rendre une espèce de fonctionnarisation de certains poètes. Voilà. Et il était absolument, absolument vent debout contre ces événements-là qui étaient. À l'époque, très, très médiatisé, Jacques Lang ayant lâché pas mal de subventions. Je me souviens avoir été à des réunions ici où il y avait la DRAC avait pas mal d'argent à distribuer pour cette journée-là.
Oui, je me souviens de ce livre que j'ai d'ailleurs, c'est Georges et Nicole Drano qui ont été édités par Rougerie qui me l'avait
Oui,
offert.
oui, oui.
Et il a été un des premiers à voir ça parce que Rougerie, il est dans la famille de Rochefort, il a édité beaucoup de
Oui, oui,
poètes de
oui.
l'école de Rochefort,
Oui.
Béalut, Bouillet, Rousselot, etc. Et il est dans cet esprit de liberté qui est dans la conception de l'école de Rochefort. Mais petit à petit, bon, ben, les subventions ont pris le pas. Je pense qu'au début, c'était dans une bonne intention, qu'il y avait un équilibre, mais après, le jeu s'est complètement transformé, quoi. Et l'esprit de Rougerie, qui a fait un travail extraordinaire, hein, qui a réédité tous les Saint-Paul Roux, enfin, qui
Oui,
a édité toutes les,
Saint-Paul Roux,
qui a fait un
Jo Bousquet.
Jo Bousquet, oui. Ben, on a l'impression qu'il y a eu une rupture tout d'un coup, quoi. Il y avait une espèce de fil qui reliait les générations de poètes sur la base d'une reconnaissance des aînés, d'une reconnaissance des pères. Et puis la poésie avançait comme ça. Et puis l'opérateur public a troublé ce jeu. Et les critères de légitimisation du poète ont complètement changé. Et donc, on se dit, alors il y a aussi ce que je dénonce aussi dans ce petit essai, c'est l'autoproclamation, quoi. Le poète, il y a beaucoup de poètes autoproclamés. Donc, dans la mesure où on s'autoproclame, il faut trouver une légitimité. Alors, on va la trouver auprès des autorités culturelles. Si on arrive à les convaincre, on est légitimé. Mais c'est loin du processus habituel, quoi. C'était de génération en génération, de Mallarmé reconnaît Francis Jammes qui va peut-être séduire Cadou et puis ainsi de suite, quoi. Donc c'est à la communauté poétique de décider de son destin et de qui la fait vivre, quoi. Mais bon, comme vous disiez, le lecteur ne s'en rend pas compte. De toute façon, la poésie, alors est-ce que ça va de pair avec le fait qu'elle n'a plus de pratiquement plus de place dans la cité, quoi. La poésie se réduit, l'espace poétique, à une peau de chagrin, quoi. Et là, j'ai un ami poète iranien, Reza Ashnar, qui a fait une petite vidéo dans laquelle il dit qu'il faudrait avoir une relation charnelle avec la poésie. Alors, il va sur la tombe de Rimbaud et il trouve qu'il n'y a personne sur cette tombe, il n'y a pas un bouquet de fleurs. Alors qui dit qu'en Iran, les poètes sont honorés, et puis on ne connaît plus par cœur des poèmes. Alors il met dans cette relation charnelle la mémorisation et de poèmes qu'on peut dire à haute voix. Et ça m'a fait penser, nous en avions parlé ensemble, de l'essai sur Georges Pompidou et la poésie. Georges
Ah
Pompidou
oui, il connaissait
connaissait
par
des
cœur,
poèmes et des poèmes par cœur. Et il s'en récitait pendant des heures. C'est ça une relation charnelle avec la poésie. Et aujourd'hui, qui pourrait réciter des poèmes du
c'est vrai.
grand patrimoine français ou étranger de la poésie?
Ça faisait partie des humanités comment dirais-je, classique, quoi,
C'est
normal, vous
ça,
connaissez
voilà.
ça. Oui. Jean-Luc Pouliquen, si vous voulez bien, on va quand même faire connaissance un peu avec le poète Jean-Luc Pouliquen, et on va passer un enregistrement. Donc, c'est le premier enregistrement que nous allons passer.
Écoute le vent.
Écoute le vent. Est-ce que vous pouvez, avant qu'on l'écoute, nous dire quelques mots?
Oui, voilà, j'ai choisi cette chanson pour rendre hommage à Raymond Bergerot, qui était un poète que j'avais rencontré durant les Voies vives de Sète, qui habitait le quartier haut de Sète et qui pratiquait la poésie et la peinture en toute sincérité, humilité. Et j'avais rencontré aussi Jacques Barthès, qui est un chanteur-poète qui prolonge un peu comme Jacques Douai cette tradition de la poésie chantée. Et Raymond Bergerot est mort il y a peu, il y a très peu, donc c'était une manière de lui rendre hommage et puis de rendre hommage aussi au travail de Jacques Barthès et à la poésie chantée.
On l'écoute.
Merci.
J'écoute le vent, écoute le vent, il berce la mer et dit doucement les secrets voilés à l'orée du jour, sommeil dépouillé de tout vêtement. Les secrets voilés à l'orée du jour, sommeil dépouillé de tout vêtement. Tout est décousu, alourlé du temps, tout est débordé au bord de l'étang. L'air est déchiré par le souffle court de mon chant scandé sur l'aile du vent. L'air est déchiré par le souffle court de mon chant scandé sur l'aile du vent. Il dit les beaux jours qui vont autrement, il dit les promesses et les contretemps, les baisers allés du premier amour et de nos passions les débordements. J'écoute la pluie couler sur l'auvent, frapper les volets, rafraîchir mon sang, et les souvenirs viennent à rebours, enchanter demain les avènements, et les souvenirs viennent à rebours, enchanter demain les avènements. La terre mouillée dans ma main je prends pour en modeler le corps des amants, âmes embrasées, liées pour toujours, quand se liguent entre eux les quatre éléments. J'écoute le vent, écoute le vent, il berce la mer et dit doucement les secrets voilés à l'orée du jour, sommeil dépouillé de tout vêtement. Les secrets voilés à l'orée du jour, sommeil dépouillé de tout vêtement.
Voilà, donc on a eu un aperçu, c'est magnifique, hein?
Oui.
Nous allons peut-être passer aussi, si vous voulez bien, donc le deuxième enregistrement
Jour de fête.
qui est
Jour de fête à Massilia.
Jour de fête à Massilia. Avant qu'on le passe, est-ce que vous pouvez nous en parler?
Voilà, alors ça remonte à tout au tout début des Cahiers de Garlaban. C'est un petit groupe de poètes et de chanteurs qui s'était créé autour d'Aubagne, au pied du Garlaban. Couronné de chèvres au temps des derniers chevriers, pour reprendre les paroles de Marcel Pagnol. Et nous étions un petit groupe, un peu dans l'esprit de Rochefort. Peut-être je pourrais vous lire ce poème,
Oui.
Les Amis de Garlaban, qui résume un peu ce que nous faisions. Et à l'occasion de la première fête de la poésie, justement, le sculpteur Jean Bercy, qui était membre de notre groupe, nous avait mis en relation avec Jean-Jacques Boitard, qui était aussi qui est de ces chanteurs-poètes qui font le pont entre la chanson et la poésie. Et il se trouve que cette année, c'est l'année de ses 80 ans. Alors je voulais aussi lui rendre hommage. Mais je vais vous lire le poème Les Amis de Garlaban. Si vous voulez, vous pourrez enchaîner après
On
sa
écoute.
chanson. Les amis de Garlaban, un samedi d'octobre, la semaine pliée dans un coin de l'armoire, les amis sont venus au partage du soir. Comme un maître de chais qui a vaincu la grêle, Charles remplit les verres avec l'alcool de ses poèmes. Descendu de Lascours à la suite des arbres, Pierre fait résonner les voûtes des cris de la forêt. Maintenant que la mer s'est tue, Claude reprend son souffle. Éric a dévissé pour lui deux étoiles dans le ciel. Entendez-vous cette voix souterraine que Jean remonte de la nuit? Amis, rejoints dans la vallée, vos mains soulèvent le voile gris des cités, dessous le souffle chaud de vos cœurs exhalés.
Jour de fête à Massilia, que font donc ces gens là-bas? Ils s'amusent comme des buses qui s'envolent dans le matin. Il y a des jours qui sont chagrins, petit lendemain. Je t'aperçois, belle lutesse, tu t'en vas, quelle allégresse, gambader par les sentiers qui torsa de la colline où a vécu Mélusine. C'est ça le destin. Le soleil qui nous enrobe se protège de nos opprobes, il nous tient à la main pour qu'on aille près des fontaines raconter toutes nos fredaines. Et moi, je vois ça de loin. Des nuages dans la montagne, c'est le pays de Cocagne. Plus de peur, petit bonheur, le bonheur de par le monde. Oublie donc la tête immonde, elle reste tapis dans le coin. Le soleil qui nous enrobe se protège de nos opprobes, il nous tient par la main pour qu'on aille près des fontaines raconter toutes nos fredaines. Et moi, je vois ça de loin. C'est le mariage de Lutèce, Massilia et ta confesse. Galoubé, petit pied, gambadons près du rivage, la fête ne fait plus son âge, elle oublie les saisons. Le soleil qui nous enrobe se protège de nos opprobes, il nous tient par la main pour qu'on aille près des fontaines raconter toutes nos fredaines. Et moi, je vois ça de loin.
Voilà, donc
Voilà, alors je vais rajouter un poème que j'avais écrit en écoutant Jean-Jacques Boitard dans ces soirées de poésie que nous faisions au Gare-Laban, au pied du Gare-Laban, et où Jean-Jacques venait avec ses deux filles, Aline et Sylvie, qui chantaient, qui jouaient de l'accordéon diatonique. Père et fille, sans ce village aux portails ouverts, sans ce plafond habillé de bois neuf, personne n'aurait su qu'un père et ses deux filles pouvaient d'un même élan faire entendre la source d'où coulait leur voix claire.
Alors, le Gare-Laban, c'est aussi le nom de votre blog.
Voilà, l'oiseau de feu du Gare-Laban, parce que j'ai eu une première période d'édition, d'abord de vie de groupe,
Oui.
d'amitié, qui se prolongeait par des soirées de poésie. Puis après, il y a eu un temps d'édition. Alors là, j'ai édité à la fois, contrairement à Jean Bouyer, des poètes de l'ancienne génération et puis de la mienne, puisque j'ai édité Michel Manol, Edmond Humeau, et puis des jeunes poètes comme Éric Trémelat, Michel Capmal, Guy Kner. Et puis ce temps d'édition s'est terminé et j'ai eu envie de prolonger mon action poétique par un blog que j'ai ouvert en 2018, mais qui au début était hebdomadaire, et puis après, au bout de 6-7 ans, j'ai décidé d'une publication aléatoire et j'essaye tous les mois de faire une chronique. Et là, parmi les dernières, il y en a une consacrée à André Salmon, parce que c'est le 50e anniversaire de la mort d'André Salmon, et que Beth Guertnesch, avec qui j'ai fait le livre Conversation transatlantique, est une spécialiste de Salmon, et qu'il va y avoir différentes manifestations autour de son souvenir, de réédition de ses livres. Alors, ce qui est formidable avec un blog, c'est qu'on peut mettre de l'écrit, mais aussi des vidéos. Et là, j'ai trouvé, il y a une chanson de Salmon qui s'appelle Fraternité, qui avait été mis en musique par Charles Aznavour. Et là, j'ai trouvé aussi la vidéo de la chanson par Marc Augeret. Alors, le blog permet ça, permet les liens, des renvois sur des sites. Enfin, vous savez ce que c'est, puisque
Oui, très
vous-même,
bien.
vous
Alors,
tenez un blog aussi, d'une certaine manière, en complément de vos émissions. Ça permet de faire vivre la poésie.
on va donner le titre exact de ce blog.
Alors, c'est l'oiseau de feu du Gare-Laban.
Tout ça se tient.
Voilà, oui.
D'accord. Alors, ce livre, Conversation transatlantique autour de l'art et de la poésie, Beth Guertnesch, Jean-Luc Poliquin, donc, est accessible par Amazon, hein?
Voilà.
Alors, il s'agit là d'une conversation, comme le titre l'indique, c'est-à-dire d'un entretien avec, il faut rappeler qui est quand même Beth Guertnesch, c'est une historienne critique d'art qui habite à New York
C'est ça, oui.
et qui est liée avec vous par ce lien fort d'André Salmon.
C'est ça, oui. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que les poètes continuent, même
Oui,
disparus, continuent à créer
c'est ce qu'il faut.
des
Oui,
amitiés
oui, oui,
de par le monde, on pourrait dire, et qui sont facilitées par les communications électroniques, quoi, que on n'avait pas il y a quelques années, et qui permet de faire des dialogues comme ça et des échanges permanents.
est-ce que pensez que ce qu'a vécu André Salmon et ce que l'on vit aujourd'hui dans cette vie culturelle est très différente.
Ben oui, c'est ça. Bon, il faut pas embellir le passé, avoir la nostalgie du passé, mais les circonstances faisaient que les gens se retrouvaient physiquement dans des cafés, dans des là au bateau Lavoir. Il s'est passé, Salmon habitait au bateau Lavoir. Il y avait Van Dongen, je crois, qui habitait, Picasso, bien sûr. Ils étaient dans la jeunesse, dans la force de la jeunesse et de la soif de nouveauté. Alors, et peut-être une certaine rareté aussi qui n'existe plus aujourd'hui. On est bombardé d'informations, on ne sait plus où on en est, tellement on est saturé, quoi. Et là, il pouvait y avoir des échanges dans la simplicité, entouré de rien, quoi, ce qui pouvait rapprocher les gens et aller peut-être au cœur de l'essentiel.
Est-ce qu'on était déjà un peu à cette époque-là dans ce qu'Ainsworth appelle la géopoétique, c'est-à-dire dans l'essence même de l'être, quoi, du monde?
Oui. Il y avait la présence des lieux qui étaient très fortes. Et puis, ce qui peut-être doit, c'est ce que dit Éric Rémela dans un de ses recueils édito qu'Edgar Laban, le désir d'œuvrer à la faille, quoi, de pas, le poète doit, peut pas être dans la répétition, peut pas être dans la convention. Alors il y a une perception, alors c'est mystérieux comme ça, de quelque chose qui doit advenir, une visuelle. Pourquoi le cubisme tout d'un coup, alors cubisme pictural, cubisme poétique avec le cornéadé de Max Jacob, pourquoi tout d'un coup, à la fois l'intuition de renouveler la vision du monde, mais et puis de trouver l'expression de ce renouvellement. Ça relève du mystère de la création. Il y a des circonstances qui peuvent aider, mais qui ne l'expliquent pas.
Alors cet entretien parle de tout ça. Vous parlez également de la traduction de la poésie, qui est
Et oui, la
une. Oui.
traduction qui est un exercice difficile. Entre le son et le sens, et on ne peut jamais enfin, répliquer le poème en faisant de la
Ne pas
traduction mot
affadir le
à mot.
poème, hein, c'est ça.
Alors il y a une poétesse turque, Sevgi Türkes Terlemez, avec qui je suis en contact, qui a cette belle expression qui dit que c'est un peu comme danser le tango, traduire, quoi. On est entraîné par le partenaire à traduire et puis on va faire une danse avec son texte pour restituer le rythme, les sons, le sens. Mais il faut qu'il y ait une espèce d'adéquation de l'un des deux partenaires, de l'un à l'autre, qu'on soit dans le même rythme, dans le même mouvement, une espèce de fusion de l'un et de l'autre pour arriver à la traduction et à la recréation du poème dans la langue d'arrivée.
Ce que je disais tout à l'heure sur la géopoétique de Kenneth White, qui recherche le monde premier, qui recherche, c'est ce que vous dites aussi dans cette conversation, hein, avec Betts Gers-Nessick. Vous parlez de la poésie et vous dites que la poésie reste le lieu privilégié de rencontre de l'être avec lui-même, avec les autres, avec la nature, les animaux, les quatre éléments, etc. Donc là, on retrouve tout à fait le cosmos, enfin, hein, si la politique divise et la poésie, elle relie. Alors ça, c'est l'idée que développe Kenneth White dans ce grand essai qui vient d'être publié, enfin, qui a été publié en 2018, par édition Le Mot ou le Verbe, qui s'appelle Le Plateau de l'Albatros, et dans lequel il dit ceci: l'un des signes de notre époque, c'est l'opposition qui s'est installée entre l'audiovisuel et l'intellectuel. L'image, le look, que l'époque tient à donner d'elle-même, est nettement anti-intellectuel, et cette volonté se traduit massivement par une pléthore de bruits et d'images. Dans une telle situation, l'envie nous prend d'aller décidément ailleurs, de nous plonger pour vivre et pour éventuellement penser un peu dans un contexte radicalement autre. Et ce contexte radicalement autre, c'est en définitive ce que vous dites de la poésie, c'est-à-dire un monde qui est en communion, en osmose avec la nature, les animaux, l'être.
Et oui, c'est ça, la poésie relie et tout le bruit médiatique est
Voilà.
un écran, quoi.
Là, j'ai
Un
trouvé.
écran entre le monde et nous-mêmes et un écran avec notre être profond. Et alors, c'est sûr qu'il faut à la fois utiliser les possibilités comme un blog, comme Facebook, mais Jusqu'où et est-ce qu'on n'est pas à notre insu victime de tous ces nouveaux moyens de
Oui,
communication?
voilà. Oui.
Alors c'est sûr que du temps de Salmon et de il n'y avait pas tout ce bruit, il n'y avait pas tous ces écrans entre les hommes, mais il y avait malheureusement la Première Guerre mondiale, il y avait d'autres cataclysmes
Oui,
qui étaient terribles et qui en mettaient en danger l'humanité, quoi. Nous, c'est un danger invisible, soft, mais qui est là quand même.
on va écouter le troisième enregistrement.
Oui.
Vous allez nous en parler.
Alors là, c'est un texte bagage que j'ai écrit dans un ensemble de chroniques qui s'appelle À la goutte d'or Paris 18e. Et j'étais allé faire des ateliers d'écriture, alors de moi-même, hein, non subventionné, c'était une initiative personnelle, auprès de ces enfants qui venaient de 50 nationalités. Et la Goutte d'Or, c'est le quartier de la Saumoire au 19e siècle, c'est le quartier de l'église Saint-Bernard où s'étaient réfugiés des sans-papiers, c'est le quartier de la détresse humaine. Et j'ai essayé de la traduire en différents textes, dont celui-ci qui s'appelle Bagages.
On l'écoute.
Bagages, tiré de l'ouvrage À la goutte d'or, Paris 18e, écrit par Jean-Luc Pouliquen, lu par Anne-Claire Bertin.
Il est en vente dans les bazars du boulevard Barbès. Il a sa place au milieu des valises, des cantines, mais aussi des casseroles, des ventilateurs, des couches pour bébés, des pelotes de ficelle, des rasoirs, des peignes, des mouchoirs en papier, des crayons, des taille-crayons, des théières. Il est facile à trouver, là, devant, au pied des étalages, plié dans le sens de la longueur, dans des boîtes de carton et offert à différents prix selon la taille. 15 francs, 20 francs, 25 francs. Déplié, il forme un parallépipède qui s'ouvre par le dessus à l'aide d'une fermeture éclair. Deux poignées l'encadrent. Sa matière est souple, un tissu synthétique, résistant et imperméable. Le motif extérieur ne prête pas à grande variation. De larges rayures en alternance de bleu, de rouge, de blanc, ou bien un croisement de lignes vertes et blanches. Il s'agit du bagage universel, du contenant le plus modeste qui soit. C'est l'accessoire du riche, le fourre-tout du pauvre, du clochard, du SDF qui appuie à l'occasion sa tête en s'allongeant sur un banc. Il sert d'appoint à celui qui n'a pu tout ranger dans ses valises et y déverse couvertures, édredons, draps, manteaux. On le voit chargé sur les galeries des voitures qui rentrent au pays, fixé par des sandaux. Il fera le même office pour le voyage du retour, mais avec une cargaison différente. Certains le portent sur l'épaule, d'autres le tirent en le fixant sur des roulettes. Il contient ce poids du monde inéluctable que l'on emporte avec soi en changeant de destination, de lieu d'habitation. Cette part de désir, d'angoisse, de solitude et d'exil mêlée.
Très beau texte, hein?
Voilà, alors je précise qu'il est dit par Anne-Claire Bertin, qui est une comédienne et aussi une chanteuse, hein, comme Jacques Barthès et Jean-Jacques Boitard, et qui écrit des très belles chansons et qu'elle interprète aussi dans la tradition chanson et poésie.
La poésie, le poète recherche ce monde complet dont parle Kenneth White et dont parlait déjà André Breton, hein, puisque dans La Clé des Champs, il dit: J'entends par monde complet un monde recréé de toutes pièces par un homme décidé à ne suivre que la pente de son esprit, en ce que cette pente peut avoir d'unique et à ne s'orienter que sur ses besoins spécifiques, en ce qu'il leur découvre d'exceptionnel. Voilà. Est-ce que vous retrouvez dans cette définition?
Oui, il faut arriver à un monde pleinement humain, qui ne soit pas tronqué, qui ne soit pas réduit à ce que veulent les politiques ou les marchands, quoi. C'est une lutte permanente de reconquête, de redonner vie à toutes nos perceptions, d'être dans une plénitude de présence au monde. Et c'est ce que cherchent tous les poètes, et c'est peut-être leur rôle aussi. Et pour le jouer pleinement, ils doivent être dans s'exprimer dans la liberté et ne pas chercher la convention ou la reconnaissance qui vient ou qui ne vient pas, mais qui est finalement accessoire par rapport à ce que doit faire un poète. que l'on attend de lui.
Alors, l'essence de l'être, c'est, moi je crois à ce que disait Bachelard là-dessus, c'est-à-dire qu'il disait que la rêverie nous apprenait que l'essence de l'être, c'est le bien-être. Le bien-être, c'est-à-dire un bien-être enraciné dans l'être archaïque. Est-ce que c'est aussi, à vous lire, c'est un peu ça?
Oui. Ben, l'être humain a vocation au bonheur. Et il faut qu'il y accède, mais pour ça, il doit prendre peut-être des chemins détournés aujourd'hui et d'être dans une vraie rêverie qui soit personnelle, qui soit stimulée par le monde premier, le monde primitif, les éléments, le cosmos, et pas des succès d'années tels que nous les offre le monde d'artifice quoi, dans lequel nous vivons.
Si vous voulez bien, nous allons continuer dans les quelques minutes qui nous restent. Nous allons continuer par écouter des poèmes. Vous allez nous lire des textes, s'il vous plaît.
Très bien. Poursuivre le chemin. Le chemin continue. Il me faut pousser mes pas plus loin. J'emporte avec moi les parfums de la terre, les caresses de l'eau, les secrets de la forêt, l'appel des cimes. L'air me porte et le cosmos m'entraîne dans son aventure. Vibration. Cette vibration qui entoure tes actes, c'est dans ton cœur qu'elle a pris source. L'écho t'en reviendra aux couleurs de ton âme. Saisir l'être. Saisir l'être dans son incandescence, dans cet instant où il habite déjà le futur, où il a signifié au présent sa date de péremption. Saisir l'être dans l'épopée de son destin. Cette grâce de savoir habiller le présent aux couleurs de l'espérance, cette grâce de deviner dans le couchant les promesses du lendemain, cette grâce de découvrir dans la nuit les portes de la lumière. Encore un. Deux poèmes pour le printemps. Le printemps a convoqué les arbres pour annoncer son arrivée. Ils se sont habillés de lumière pour repousser la grisaille. Le ciel n'est plus le même, éclairé désormais depuis la terre. Ces flocons de laine, accrochés à leurs branches, les prunus les réservent au retour du mois de mars. La rue n'en revient pas de cette déchirure dans l'hiver où se devine le rose des beaux jours.
Merci, Jean-Luc Pouliquen. Est-ce que vous pouvez nous rappeler donc les publications qui sont disponibles?
Alors, faire vivre la poésie et conversation transatlantique autour de l'art et de la poésie avec Beth Gersnesik. Tous les deux sont diffusés par Amazon.
D'accord. Donc, on s'adresse à Amazon pour avoir ces publications. Très bien. Nous mettrons également, bien sûr, sur notre site lespoètes.site toutes les références. Merci beaucoup, Jean-Luc Pouliquen. Pour ce moment très 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 dense que nous avons vécu ici à Radio Occitanie, et nous vous disons à bientôt, très prochainement, donc pour une autre publication, pour un événement.
À bientôt, Christian. Oui, merci beaucoup à vous.
Ainsi s'achèvent les poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie, et nous vous disons à la semaine prochaine à 10h.